Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission des livres et des lires. Nous sommes ravis ce matin, cet après-midi et cette nuit, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, de vous parler de plusieurs bouquins très différents les uns des autres. Pour notre livre commun, La Pouponnière d'Himmler, nous vous en parlerons dans quelques minutes. Ensuite, il sera question des eaux du Danube, de Jean Materne, du Titanic fera naufrage de Pierre Bayard et de Raconte-moi ma vie de Sophie Régal-Goulard. Caroline de Mulder, pour démarrer avec vous, mesdames. Bonjour Françoise Ducret.
Bonjour Marie.
Bonjour Bénédicte Joust.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
C'est un livre dans la collection Gallimard, la collection Blanche. Les Pouponnières d'Himmler, on en a entendu parler. Moi, je l'ai tout de suite vu, la couverture est très intéressante. Donc je l'ai vu évidemment dans une librairie et je le dis, je l'ai choisi. C'est moi qui vous ai demandé et qui vous ai dit « j'aimerais bien qu'on le lise ». Oui, dit-elle. Alors, c'est Pouponnière pour sélectionner des bébés de pure race aryenne. Il y a Renée, toute jeune fille française perdue et rejetée pour être tombée amoureuse d'un soldat allemand et attendre un enfant de lui. Il y a Helga, toute jeune infirmière allemande qui veut faire de son mieux dans sa mission. Il y a évidemment un personnage un peu intrigant, un mystérieux prisonnier et donc des figures féminines qui sont dépeintes ici, des figures entières qui sont percutées par la vie et par les drames. Une écriture tout à fait particulière, alors à laquelle on adhère tout de suite ou pas, ou avec plus de difficultés, mais le sujet évidemment est extrêmement intéressant. Et lorsqu'on parle d'Himmler, c'est évidemment l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich militaire et qui finira par se suicider comme beaucoup de nazis. Qui a envie de prendre la parole ?
Bon, alors je vais bien.
Allez, Françoise.
Donc, comme vous l'avez dit, ce sont trois personnages, trois voix. Dans le livre, trois personnages qui vivent dans cette...
Pouvons-nous parler de roman choral ?
Ouais, tout à
Pourquoi
fait.
Pas
Tout à fait. Donc, trois personnages qui vivent différemment, bien sûr, dans cette pouponnière. Alors, vous l'avez dit, Himmler était un des metteurs en scène de l'eugénisme nazi. Hein. L'eugénisme était une forme de pensée, une forme scientifique qui existait déjà depuis le 19e siècle, mais les nazis en ont fait vraiment quelque chose de... Ils sont allés au bout du raisonnement, c'est-à-dire que on stérilisait des gens qui n'avaient pas le droit d'avoir d'enfants parce que bon, ils n'étaient pas de race aryenne. On tuait des bébés nés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait conformes, qu'ils n'étaient pas conformes à ce qu'on se faisait... à l'idée qu'on se faisait d'un bébé à rien. Et puis on gardait, et là on va le voir dans le livre, des enfants, on ramassait des enfants un peu partout qui avaient l'air à rien et qu'on élevait dans cette pouponnière. Donc c'est un grand centre, comme un hôpital.
Nom de code, l'Eben... Ben oui, j'aurais pu. Hein. Nom de code, Lebensborn, fontaine de vie.
C'est ça.
En vieil allemand, entre 1935 et 1945, les nazis ont tenté de créer une race supérieure de germains nordiques censés régner sur le monde durant 1000 ans. Pour cela, la SS dirigée par Heinrich Himmler avait ouvert des maternités.
C'est tout à fait ça.
Très particulières.
Et c'est l'histoire...
Et pardon pour le lapsus, mais qui vraiment était dans le coup.
C'est l'histoire, en effet, d'une de ces maternités. On est en 1944, là, dans le roman, donc on est à la fin de la guerre. Que va-t-il se passer? Et c'est ça, peut-être aussi, un peu l'intérêt du livre. On est en Bavière, et donc, on assiste, donc, on vit avec ces trois personnages dans cette pouponnière. Donc, Renée, qui est une femme enceinte de 16 ans, qui a été tondue en France parce qu'elle a eu, elle a eu une relation avec un officier SS. Elle a été exfiltrée vers la Bavière et vers ce centre. Elle va bientôt accoucher. Ensuite, il y a Helga, une infirmière qui est complètement aux ordres de Himmler et du docteur Ebner qui dirige cette maternité. Mais en même temps, elle a quand même des relents d'humanité. C'est une infirmière. On va voir comment ça se comment ça se manifeste. Et puis Marek, c'est un déporté polonais qui est jardinier et donc on emploie dans cette maternité. On assiste au début du livre à la visite d'Himmler parce que c'était lui qui venait organiser, qui venait mener cette cérémonie de baptême de tous ces enfants qui sont nés récemment dans ce centre. Donc on voit cet Himmler assez hypersensible, hein, presque la larme à l'œil devant tous ces beaux bébés. Mmh. On voit aussi donc tout le travail du docteur Ebner qui dirige la maternité. Il faut dire qu'il y a d'autres maternités ailleurs, hein, vous l'avez dit. Donc dans cette maternité, il y a de plus en plus de bébés qui arrivent, mais on ne sait pas d'où. Et en fait, on construit des hangars de plus en plus grands et des enfants arrivent en train. En fait, ces enfants sont volés à des familles. Ils ont l'air blonds ou roux, et aux yeux bleus. Donc c'est tout à fait ce qu'on veut, hein. Et puis un jour, le docteur Ebner, qui dirige la maternité, donc reçoit l'ordre de détruire les archives. La fin est proche avec l'arrivée des troupes alliées. Donc les SS s'enfuient et c'est l'effarement et l'étonnement des soldats américains devant ce qui était en fait un exemple pour les nazis de formidable réussite. Et l'infirmière d'ailleurs, Helga, à la fin se pose des questions sur ce qu'elle a fait là. Et elle écrit dans un de ses journaux, dans son journal intime, « Tout ce qui était beau est devenu affreux ». En fait, ce livre, il nous parle aussi de la déshumanisation. Parce que d'un côté, il y a la beauté des enfants qui naissent, parce que ces infirmières s'occupent bien d'eux. Elles les prennent dans leurs bras, elles leur donnent à manger, elles leur font des caresses. Et en même temps, c'est
l'horreur.
C'est l'horreur d'une sorte de déshumanisation parce qu'on essaye d'améliorer la race humaine. Et en fait, c'est la pire des barbaries. Donc voilà un petit peu le contexte de ce livre. Après, il y a l'histoire individuelle de chacun. C'est vrai que ce qui frappe, ce sont tous des individus très jeunes. Elle a 16 ans, l'infirmière a 20 ans. On s'imagine que cette jeunesse, quand même, c'est assez incroyable. Voilà. Et donc, elle arrive assez, je trouve, à montrer les sentiments, la tristesse, le désarroi, la mort d'un enfant, et puis la faim, parce que Marek est un prisonnier, qu'il a tout le temps faim, qu'il cherche à manger. Mais j'avoue que le tout ne m'a pas très très enthousiasmée. Vous parliez de style. C'est vrai qu'au début, elle a une écriture très saccadée. Ce sont des phrases courtes. Dîner, parquet au sol, lumière. On se demande pourquoi. Donc là, j'avoue qu'il y a un peu, voilà. Ça me paraît un peu dissonant. Et par exemple, quand elle écrit aussi, ça fait 6 semaines et 6 jours qu'elle l'attend. À y réfléchir, même quand il était avec elle, elle l'attendait déjà. Voilà. Ça, c'est des phrases aussi qui m'ont un peu gênée. Et puis, c'est vrai aussi que c'est une période de l'histoire nazie qu'on connaît, hein, connaît vraiment.
Le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de livres écrits sur le sujet,
c'est ça,
beaucoup de documentaires. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi pour cette raison que ce livre est intéressant.
Oui, parce que pas des romans. Voilà.
Trouve que l'aspect roman, je trouve qu'il manque quelque chose finalement pour que ça prenne, quoi. Parce que pourquoi roman, pourquoi pas documentaire finalement. Bon, l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'on est au plus près des personnages, de leurs sentiments. Et là, je pense qu'elle a voulu montrer d'humaniser un peu tout ce qui peut paraître déshumain dans ce qui aurait été un reportage sur l'eugénisme nazi, par exemple.
Mmh. Il y a un personnage célèbre qui est un enfant de cette pouponnière. C'est, je pense, la plus célèbre. C'est Annie Friedlingstadt, chanteuse du groupe ABBA,
née le
15 novembre 1945. C'est assez surprenant lecture, je me disais, mais que sont-ils devenus?
C'est ce que je disais.
Forcément la
c'est
question.
Ce que je disais avec Bénédicte. Ouais. Que sont devenus ces gens?
Comment ont grandi
Ils sont nés en 1944. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, ils auraient 80 ans.
Ouais. Elle est née en 45. Elle est née, 15 novembre 45. Je vous en prie, parce que j'ai l'impression que vous trépignez.
Non,
vous
non, pas du tout.
Prendre la parole,
ah non, Bénédicte. Pas du tout. J'écoute attentivement Françoise. Oui, moi, je suis gênée aussi. Je reste très, très mitigée. Pourtant, il y avait un matériau formidable. Le point de départ, moi, je le trouve passionnant parce que bon, on voit la folie monstrueuse des nazis exterminée d'un côté et remplacée de l'autre. Mmh. Et le fait qu'elle évoque comme ça, que Caroline de Mulder choisisse la plus importante de ces maternités parce qu'elle fut la première, donc le Lebensborn, qui se trouve en Bavière. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est tellement effrayant, voilà, que c'en est passionnant. Et on voit bien qu'il y a plusieurs types de mères. Hein. Elles ont tous des histoires diverses. Il y a les femmes consentantes, ravies de servir le Führer, et celles dont les histoires sont plus obscures. Mais elles sont toutes ariennes et enceintes de nazis. Et c'est vrai qu'elles sont prises en charge dans ces maternités, soignées et surveillée, mais surveillée oui. dans tous les sens du terme. Et vous l'avez dit, Françoise, choisir de débuter le récit en 1944, ça, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que à un moment, l'un des personnages le dit, dans cette maison de femmes, comme il est appelé, rien ne semble pouvoir atteindre cette campagne perdue. À Steinhoring, la guerre est loin encore. Mais évidemment, les rumeurs commencent à arriver, les doutes et les questionnements vont commencer à poindre, et le projet qui paraissait parfait et sans faille se fissure. Donc c'est vraiment intéressant de choisir le récit à ce moment-là. Et c'est aussi à ce moment-là, évidemment, donc, que Helga, l'infirmière, s'interroge sur la nature et sur les objectifs de ces pouponnières. Parce qu'au départ, elle le dit, elle se sent chez elle ici, fière de ce qu'elle fait, de l'endroit où elle est, et elle veut faire honneur au Heim, faire honneur au Reichsführer. Mais, comme je disais, l'approche de la défaite et un autre épisode aussi, un épisode concernant un enfant de la maternité, vont commencer à faire vaciller ses certitudes et déclencher un début de prise de conscience. Elle va faire partie de ces individus qui, en découvrant l'horreur, se disent « Mon Dieu, je ne savais pas ». Et ça, c'est toujours intéressant dans ces abominations. Voilà, je ne savais pas ou je ne voulais pas savoir, qu'est-ce que j'ignorais, à quel moment ai-je choisi d'être aveuglée. Et tout ça est matérialisé, alors de façon, moi j'ai trouvé un peu artificielle, dans les extraits du journal intime de Helga, qui nous sont donnés à lire et dont certains passages sont rayés, mais lisibles tout de même, pour montrer que Helga cherche à s'interdire, en fait, d'une certaine façon, de penser à certaines choses. Parce que, vous l'avez dit, Françoise, elle est conditionnée.
Les informations sont quand même cloisonnées.
Ah bah oui.
Et on voit bien le système qui est mis en place par Hebner.
Et c'est ce qui montre comment on peut finalement, on interdit de penser. Et on interdit aussi, oui, vous dites qu'il y a des caresses, etc. Mais quand même, on explique qu'il faut éviter les effusions, pas de compassion, pas d'émotion. Et tout ça, évidemment, hein, assécher les cœurs et les esprits, bah, ça facilite la manipulation. Et j'aurais aimé que tout ça soit développé. Comment, à un moment donné, la fierté, l'assurance d'être dans le camp du bien, parce que c'est ça aussi, laisse place à une réflexion sur l'aveuglement et l'asservissement volontaire qui se met au service de la monstruosité. Et j'ai trouvé quand même, moi, qu'il y avait quelque chose de caricatural dans les personnages. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Je n'arrivais pas à éprouver je n'arrivais pas à être touchée. Et ça m'a considérablement gênée. Pourtant, il y a Marek, ce déporté polonais qui souffre atrocement. Il y a cette pauvre Renée dont la condition aussi est abominable, parce qu'elle est la victime absolue. Elle est rejetée de tous, elle n'est plus française, elle n'est pas allemande, et elle ne sera plus jamais chez elle nulle part. Et je pense qu'à un moment donné, l'auteur a cherché une forme de distanciation et de froideur, mais qui pour moi ne fonctionne pas. Et le style, vous l'avez dit, là aussi pour moi, c'est le vrai problème aussi du roman. Alors, on nommait fréquemment les sujets, donc elle regarde ses dents abîmées qui lui font un vilain sourire dans un beau visage, point, un trou noir dans la neige, point, referme sa bouche, point, sourit les lèvres pincées, point. Ou il a dans le regard quelque chose de triste, point, s'éloigne, point.
Ça, oui, pour moi, de saccadé.
Oui, mais là encore, si ça sert le propos, et moi je ne suis pas juste une vieille prof aigrie qui n'aime pas, les audaces stylistiques.
Mais non, c'est vrai.
Là, ça ne fonctionne pas, comme toutes ces subordonnées. Je ne suis pas que ça. Je suis aussi particulièrement vieillissante. Oh, mais bon.
N'importe quoi.
Et voilà, toutes ces subordonnées sans principal, ça m'a gênée. Alors, ça m'a gênée dans la lecture.
Ce qui était un peu embêtant aussi, c'est les redites, parce qu'on le voit manger des épluchures dans un chapitre.
Oui.
Marek qui a faim. Ça, c'est vrai, montrer la faim, parce que ça, on ne connaît pas ce que c'est que la faim. Mais en même temps, le chapitre d'après, on le revoit encore dans les épluchures. Le chapitre d'après, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup redondance de certaines scènes. Voilà.
Oui, mais c'est pour les appuyer. Ça, à la limite, moi, ça ne m'a pas gênée. Plus l'écriture.
Oui, parce qu'en plus, on a des différents points de vue.
Ouais.
Voilà,
mais... Je me dis que ça peut séduire des lecteurs.
Oui, hein, tout à fait.
Parce que ce n'est pas une écriture qu'on retrouve tous les quatre matins. Donc
non, voilà,
ça
peut intéresser, je le répète, le
mais
le
nous, thème... ça ne nous a pas plu, il faut le dire.
Oui, non, voilà. Je suis vraiment restée à côté de ce roman. Et,
bon, ce que j'ai aimé, moi, c'est le sujet quand même, parce que ça m'a donné envie de lire plein de choses différentes. J'ai appris qu'au départ, les fameux Lebensborn étaient des foyers, des crèches, très vite, ça s'est transformé en pouponnière, en lieu de rencontre, pour que les soldats nazis puissent évidemment engrosser des femmes choisies.
On pensait que c'était des fakes aussi, à un moment donné, on se dit que c'était pas vrai.
Vous avez raison.
Il y a un vrai scientifique, absolument, un vrai historien qui a fait des recherches et qui a prouvé l'existence de ces endroits.
Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a certainement à peu près 20 000 enfants issus de ces pouponnières. Malheureusement, pas de statut de victime, ni pour les mères, ni pour les enfants. En tout cas, aujourd'hui, rien n'est reconnu en ce sens. Donc, c'est quand même vachement bien qu'il y ait des livres, des romans,
bien sûr,
le plus populaire possible. J'espère qu'il va être lu quand même, parce que,
bien sûr,
franchement, c'est important.
Tout le monde ne connaît pas cette histoire.
Ce qui est bizarre, c'est parfois les petites histoires, enfin secondaires, mais la fameuse histoire de cet enfant, Jürgen. Je suppose, pas forcément une histoire vraie, mais il y a eu ces cas-là.
Ah oui,
cet enfant dont on pense qu'il n'est pas pur. Et on comprend qu'en plus, sans doute, on fait quelques expériences pour comprendre justement d'où vient ce qu'il voit comme des dysfonctionnements. Et
ah oui, j'ai bien parlé de victime. Hein.
Voilà, ouais. C'est pour ça que je rebondissais là-dessus.
Bon, alors, on le lit.
Oui,
on le lit pour être au courant de cette histoire. Et on salue en tout cas l'autrice, Caroline de Mulder. On prononce ainsi ?
Je pense.
Ouais. Et
je pense
pour avoir choisi ce sujet.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai travail de recherche, tout travail, ou même sur la langue allemande. Je trouve que ça c'est réussi. L'équilibre, elle donne parfois des propos en allemand. Et ça sert le...
Oui, c'est tout à fait un roman historique. Hein. C'est... par exemple, on voit Ebner, on voit Himmler, ce sont vraiment des personnages qui ont existé.
Merci mesdames, nous allons parler de toute autre chose. Alors, vous allez prendre la parole dans un instant, chère Bénédicte, pour nous parler des eaux du Danube. Vous restez bien avec nous. So much more. FM et nous allons plonger dans les eaux du Danube avec Bénédicte Joust. Jean Materne signe ce livre chez Sabine Vespizer aux éditions Sabine Vespizer.
Voilà, donc Jean Materne est né en 65 dans une famille originaire d'Europe centrale, nous dit la quatrième de couverture. Donc il est romancier, mais c'est un homme aussi qui travaille dans l'édition. Après avoir travaillé chez Gallimard et Grasset, il est actuellement donc le directeur éditorial de Bourgois. Et donc là, si j'ai bien compté, il s'agit de son huitième roman. J'avais présenté Le Bleu du Lac il y a quelques années, que j'avais tant aimé, où Jean Materne, comme ça, évoquait le souvenir du vertige et de la beauté d'un amour passionné entre une concertiste célèbre et son amant qui était critique musicale, voilà, et qui mourait subitement et dont l'ultime requête posthume était que sa maîtresse joue un morceau de Brahms pour la messe des funérailles. J'avais trouvé ça absolument merveilleux. Alors là, dans les eaux du Danube, l'ambiance est de prime abord très très différente. Là, on a donc Clément Bontemps, et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce nom. Clément Bontemps est pharmacien, il est issu de la bonne société lyonnaise, il s'est installé avec sa femme Madeleine à Sète depuis 20 ans. Ils ont un fils Mathias. Il y mène une vie extrêmement paisible, pour ne pas dire monotone, mais Clément aime ça. La première phrase du roman est la suivante. « J'ai passé ma vie à éviter les sensations fortes. » Et il ne conçoit son existence que dans la routine, l'habitude, la répétition. Sa propre femme le définit comme un homme sans passion, mais elle reconnaît qu'elle l'aime aussi pour cela. Donc c'est une vie parfaitement réglée qui ne lui procure aucun réel contentement. Jusqu'au jour où il reçoit un appel du professeur de philo de son fils. Et là, un étrange malaise va s'installer. Malaise qui va être accentué par le trouble qu'il éprouvera aussi en présence d'une cliente étrangère dans sa pharmacie. Il sera troublé par les paroles et les confidences qu'elle lui fait sur son île d'origine, l'île de Barra en Écosse. Elle dira que voilà, c'est l'endroit où elle est devenue elle-même. Et ces deux conversations vont complètement dérégler la vie de Clément. Et je vous laisse découvrir pour quelle raison.
Mais quoi, c'est d'un coup un caillou dans la chaussure.
Et oui, et là. Et oui, non, mais surtout parce que je ne veux rien dire. Là,
il faut se laisser, surtout pas. Hein.
Parce que voilà, il faut se laisser porter par l'écriture et par la capacité de Jean Materne à nous tenir en haleine alors qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais les bouleversements et les révélations, en fait, vont être d'accord. Terribles. Et
mais dans la conversation, la première conversation.
Mais on ne le sait pas. C'est ça. Il y a une narration extrêmement singulière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement très important, il le rapporte, mais sans en donner les détails, et c'est plus tard Punaise. Qu'on saura ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, etc. Et tout ça en 110 pages. Hein. Apparemment, Jean Materne aime les formats courts, mais c'est incroyablement dense. Et ici, il nous raconte la transformation d'un individu, parce qu'en fait, Clément est un homme qui a porté les secrets de ses parents, qui les a inconsciemment fait sien sans en connaître leur nature véritable et qui s'est construit une existence sur les non-dits, sur les apparences. Et je le répète, une existence qui n'est pas malheureuse. Mais ces deux rencontres vont faire ressurgir les secrets parce que les secrets ne restent jamais dans le passé et l'amener à une prise de conscience. Et là, il va réaliser qu'il n'a peut-être mené qu'une petite vie ordinaire et médiocre, gérée comme un financier gère ses actions. Il se trouve à un moment de sa vie où il ne veut plus se contenter de cette existence, il dira, raisonnable. On peut se mentir, on peut se maintenir dans l'illusion d'une normalité bienheureuse, mais il va se réveiller, il va réveiller cette conscience anesthésiée et il va s'ouvrir sur le monde, il va apprendre à écouter un morceau de Schubert, il va apprendre à comprendre son fils, sa femme et aussi sa mère. Et il va commencer finalement à chercher à comprendre qui il est et où il a envie d'être. Lui qui jusqu'à présent était un homme, je l'ai dit voilà comme ça, sans attache, qui n'appartenait à aucun lieu, qui se contentait, j'aime bien l'expression, de traverser les journées. Et Jean Materne sait saisir les individus comme ça qui cherchent leur place mais qui vont avoir besoin de plonger en eux-mêmes pour trouver là. Quelle est cette place. Et il y a, je regrette d'être aussi inculte en musique classique parce que dans les deux romans que j'ai pu lire, et il y en a un autre dont j'ai commencé à lire le début, on voit que la musique joue un rôle essentiel.
Mais alors, vous dites les eaux du Danube. Alors, évidemment, tout le monde connaît le Danube bleu de Strauss, mais ça n'est pas la référence.
Alors, ce n'est pas la
Donc,
référence.
Je voudrais savoir pourquoi on ne peut pas le dire.
Non, ça surtout pas.
Donc, cette situation géographique, en tous les cas, est importante dans
tout
la narration.
Tout est important parce que vous allez voir que la musique et la littérature, c'est au-delà de la consolation, sont des sortes de révélateurs. Tout le roman est bercé par Schubert et aussi par ce poème de Paul Valéry, le cimetière marin. Et c'est vrai qu'avec le bleu du lac, bon, c'était Brahms. Dans Suite en do mineur, c'est Bach. Et je vous dis, je n'y connais rien.
Mais l'histoire d'exil.
Je n'y connais. Il y a en tous les cas, il y a les fantômes du passé. Mais vous commencez à approcher. Il y a des fantômes du passé. Ouais. Il y a des vies comme ça qui restent en suspens. Et j'ai l'impression que chaque voix de ces romans, parce que c'est toujours des romans à la première personne, sont étroitement liés, évidemment, aux morceaux de musique évoqués.
L'origine du prénom Mathias, qui est une origine germanique, veut dire don de Dieu.
Oui.
Est-ce que ici,
elle veut
tout savoir.
Mais vous me donnez très envie avec ce livre.
Ah mais il faut, moi, je pense que
lisez-le chez vous. Arrêtez de tout divulgâcher à la radio.
Ah, je ne veux rien dire. Même comme je vous dis, Clément, le nom Clément Bontemps, à mon avis, est riche de sens. Mais je ne veux pas y réfléchir tant que vous ne l'avez pas lu.
C'est quelqu'un donc qui prend du bon temps.
Non,
moi, pour moi, c'était plus le tempo, il y a quelque chose. Mais et justement, au niveau là encore du rythme, dans le bleu du lac, les phrases étaient extrêmement longues et elles disaient aussi bien, me semble-t-il, le vertige de l'amour que la douleur de la perte. Là, les phrases sont beaucoup plus courtes, le rythme est beaucoup plus mesuré, modéré. Ah, moi, j'ai envie de vous lire le début. Hein.
Je vous en prie, faites.
Ah oui. J'ai passé ma vie.
Trapenard a bien lu La Rochefoucauld en direct face caméra. J'ai eu un moment
et
de.
Alors
c'était terriblement terrible.
C'est-à-dire.
C'est bon, ça, Bénédicte lit très bien.
Ah non, mais pression, voilà.
J'ai pas la pression.
Je voyais
La Rochefoucauld aussi.
J'ai passé ma vie à éviter les sensations fortes. Question d'éducation. Pas d'alcool, pas de saut en parachute, pas de voiture de course. Pas d'aventure non plus. Même le sexe m'ennuie parfois. Tout m'ennuie d'ailleurs, je crois. J'attends que ça passe. Je ne sais pas pour autant ce que ça signifie. À la pharmacie, la plupart du temps, je fais semblant d'aimer mon travail. Les journées ne sont jamais les mêmes, c'est vrai. Les clients font preuve d'une étonnante capacité à poser des questions différentes, à vouloir de nouvelles solutions à leurs problèmes qui n'en sont pas, jour après jour. Mais pour moi, tout cela revient au même. J'attends que l'horloge fixée au-dessus de la porte affiche 19h. Non que je fasse des choses extravagantes ensuite, une fois que j'ai baissé le rideau et fermé l'officine à double tour. C'est plutôt comme arracher une page de ces éphémérides que nos grands-mères accrochaient dans leur salon. Avec un sentiment de contentement et ce soupir qui voulait dire « ça y est, une autre journée passée ». Depuis l'entretien avec le professeur de philosophie de Mathias, je n'arrive plus à ressentir ça. L'heure ne tourne plus comme avant, quelque chose s'est déréglé et cela me tracasse.
Mm-hmm.
Voilà.
Bon, ça a l'air vraiment très bien. Ça s'appelle Les eaux du Danube, Jean Materne, et c'est aux éditions Sabine Vespizer.
Oui. Et voilà. Et il a écrit, je conclurai là-dessus, hein, il a écrit un essai qui s'intitule « De la perte et d'autres bonheurs ». Et ce titre qui pourrait sonner comme une espèce de paradoxe ou d'antithèse, à mon avis, dit toute la complexité voilà, de l'existence qui est si élégamment évoquée par Jean Materne. Et chez Sabine Vespizer,
c'est une belle collection.
Plus, ouais, c'est très, beau. Très beau. C'est un merveilleux objet en plus.
On va rien caler avec.
Non.
C'est vraiment pour le lire. Il est très joli parce qu'il est, c'est vraiment c'est 110 pages. Oui. Hein. Donc ça se lit très, très vite. Merci beaucoup, cher Bénédicte.
Je vous en prie.
Dans un instant, nous irons du côté du roman jeunesse.
Oui.
Également, mais pas que. Hein, avec Françoise. Le Titanic fera naufrage aux éditions de Minuit et Raconte-moi ma vie de Sophie Régal-Goulard chez Rajo, me semble-t-il. Restez bien avec nous.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens!
des livres et des lires. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous avons parlé du livre, c'était notre livre commun, Les Pouponnières d'Himmler, de Caroline de Mulder, et ça c'est chez...
Gallimard
dans la collection Blanche. Merci Bénédicte. Plongée troublante dans les Lebensborn, dans un Lebensborn en Bavière. Nous avons parlé des eaux du Danube de Jean Materne chez Sabine Vespizer. Et à présent, vous nous proposez non pas un, mais deux livres, Françoise.
Alors d'abord, j'ai pris un peu cette habitude depuis quelque temps de parler de littérature de jeunette pour que...
De jeunesse, pardon.
Arrêtez, oh là là. De jeunesse.
Entre le nom de conne et le... C'était nom de code pour le lapsus de tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas avec nous, oui.
Alors, donc cette semaine, Raconte-moi ma vie de Sophie Rigal-Goulard. Alors, je dois vous dire que c'est un roman qui est en lice cette année pour le prix des collégiens de Corse, que nous venons de recevoir Sophie Rigal-Goulard. Et du coup, j'ai eu envie, évidemment, de vous en parler. Sophie Rigal-Goulard, on l'avait déjà reçue en Corse. Elle écrit pour la jeunesse depuis 25 ans environ. Une cinquantaine de livres à son actif, pour tous les âges. Et puis, une série à succès, Quatre sœurs. Elle en est au 22e tome, avec des ventes à 20 000 exemplaires chacun. Hein, donc, c'est un gros succès de librairie. Alors ici, Raconte-moi ma vie, ça ne fait pas partie de la série. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne, Enola, qui se fait renverser par une voiture. Et elle devient amnésique. « Je suis une page blanche, tout à réécrire », dit-elle. Elle essaie donc de retrouver la mémoire, avec le concours de deux de ses amis. Et là, tout se complique parce qu'elle a l'impression, au cours de cette sorte d'enquête sur elle-même, que ses parents lui mentent. Et elle découvre des choses, des attitudes bizarres. Donc on ne sait pas tout dès le départ, bien sûr, et je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a beaucoup de suspense dans ce livre. Il y a différentes voix là aussi qui se succèdent pour raconter cette histoire. Et en fait, l'autrice distille avec beaucoup, beaucoup de finesse des indices qui font peu à peu comprendre que le monde d'Enola n'est peut-être pas tout à fait le nôtre et que finalement, on se demande s'il ne s'agit pas, à un moment donné, hein, au début du livre, d'un roman d'anticipation, mais juste avec quelques petits indices. Évidemment, au cours de la lecture, on a la révélation de toute cette histoire dont je ne vous parlerai pas. Évidemment. Il y a des réflexions dans ce livre sur tout ce qui touche le quotidien des adolescents, l'éducation parentale, et puis des petites choses de la vie quotidienne. Et puis un sujet assez fondamental, me semble-t-il, de nos jours, c'est la place de l'intelligence artificielle dans notre société, qui sera probablement grandissante. Donc c'est un livre qui a été écrit par l'autrice, hein, par Sophie Rigal-Goulard, mais dans un dispositif particulier, qui est le dispositif feuilleton des Incos, auquel peuvent s'inscrire les collèges, et qui fait que l'autrice va envoyer ses chapitres tous les 15 jours à 6 ou 7 classes réparties dans toute la France. Et au fur et à mesure, les enfants vont parler de ces chapitres, vont dire ce qui les touche, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait, par exemple, le portrait du personnage principal, et alors peut-être que ça influence aussi son histoire. Et ce qui l'a beaucoup influencée, a-t-elle dit, c'est que elle a fait en sorte que chaque chapitre soit très appétant pour le reste de la lecture, donne des indices mais pas trop, et donne envie d'aller plus loin. Donc je crois que les enfants ont beaucoup apprécié ce livre, et moi aussi, je dois dire.
Quel âge, vous avez dit ?
Eh bien, c'est 6e, 5e, 4e.
Bon, voilà. Et plus,
on
hein.
va dire. Ah bah oui, parce que moi, franchement,
Vous l'avez lu avec beaucoup de plaisir.
Ouais.
Donc ça s'appelle « Raconte-moi ma vie ». Déjà, le titre est très joli.
Oui, très beau titre et très belle couverture.
Absolument,
hein, belle image.
Absolument. Sophie Rigal-Goulard, chez Rajo, donc roman jeunesse que vous propose Françoise Ducret. Autre livre.
Alors, autre livre, là encore... Nous allons recevoir Pierre Bayard prochainement pour Histoire en mai. Ce sera à partir du 17 mai, 17, 18, 19 mai. Donc Pierre Bayard, c'est un essayiste. Il est psychanalyste, professeur de littérature à Paris 8. Et il est très très connu pour son livre « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus dans lequel il questionne la frontière entre lecture et non-lecture, avec beaucoup de science, mais aussi beaucoup d'humour. Et c'est aussi ce livre, une réflexion sur le rôle du lecteur. Et en général, c'est vrai que c'est un auteur, lui, Pierre Bayard, qui s'amuse beaucoup avec la littérature et le cinéma. Alors, le Titanic fera naufrage est un peu ancien, hein, mais il publie régulièrement ce genre d'essais aux éditions de Minuit et dans la collection Paradoxe. Donc, le Titanic fera naufrage clôture sa trilogie sur l'émancipation littéraire. Alors, lui, il écrit « La littérature ne s'inspire pas seulement d'événements passés ou présents, mais également d'événements à venir. » Est-ce que, il se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une capacité annonciatrice de la littérature ? Parce que beaucoup d'œuvres littéraires semblent décrire le futur plutôt les faits tragiques. Hein. Mais personne n'en tient compte, en fait. On ne confère finalement à cette sorte de science, qu'il appelle science lui aussi, aucun véritable statut scientifique. Si l'histoire est une ligne droite, eh bien, elle ne conduit pas nécessairement vers un progrès infini. Est-ce que le temps s'écoule toujours dans la même direction ? En fait, il se pose plein de questions et c'est presque, ce livre, un traité scientifique sur le phénomène. Alors, ces prédictions faites par les auteurs des années avant les faits, est-ce qu'on peut appeler ça prédiction ? Est-ce qu'on peut appeler ça prémonition ? Est-ce qu'on peut appeler ça hasard ? Coïncidence ?
C'est mon petit côté théorie du complot, j'adore.
Non, ouais.
Là, vous touchez à des
intuitions. En fait, il mène l'enquête. Voilà.
Ben oui.
Pierre Bayard, il explore toutes les pistes. Il évoque aussi la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Il faut donc se tenir prêt. Il évoque toutes sortes d'auteurs. Alors, il faut savoir que Pierre Bayard est aussi psychanalyste, donc il évoque Jung et
oui,
sa théorie de la synchronicité qui est la coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal. Pardon. Et en effet, maintenant, on parle de plus en plus de physique quantique, hein, c'est un petit peu ça. Il cite beaucoup Kafka, qui manifestait, écrit-il, une perception politique de l'avenir, et concernant notamment les régimes totalitaires, alors qu'il ne les avait pas connus tels qu'ils ont été réalisés dans les années 30. Il parle aussi de Jules Verne, avec son livre de la Terre à la Lune, qui décrit l'Odyssée spatiale américaine avec un siècle d'avance. Plateforme de Houellebecq, qui raconte l'attentat de Bali un an avant. Et il est peu probable, dit-il, que les islamistes indonésiens aient lu le roman de Houellebecq pour réaliser cet attentat. Cinq ans avant le 11 septembre 2001 et la destruction des tours de New York, Tom Clancy avait écrit un roman dans lequel un terroriste utilisait un Boeing comme arme pour détruire le Capitole. Le sujet, ce qui donne le titre à son livre, évidemment, c'est le Titanic, parce qu'il écrit que 14 ans avant le naufrage du paquebot, le romancier Morgan Robertson raconte dans un livre, le naufrage du Titan. Même cloison
étanche. En 1898, roman dans lequel il raconte le naufrage du paquebot transatlantique, prétendu à submersible,
pareil,
ayant heurté
avec
un iceberg.
C'est ça. Et alors il raconte toute l'histoire des cloisons étanches, de la quantité insuffisante de canaux de sauvetage.
Les 3000 passagers qui sont morts. Alors, sauf que voilà. Moi, je trouve que non, le postulat de départ, c'est intéressant.
Ouais.
Mais est-ce que ça tient sur tout l'ouvrage ? Est-ce que parfois c'est pas un peu trop tiré par les cheveux ?
Vous voyez, alors non,
il y a ce point de départ qui est génial.
Il a été suffisamment habile pour, en effet, de choisir que des exemples qui tiennent la route.
Ouais.
On le sait bien, Wells, dans ses romans de science-fiction aussi, qui met en garde et propose des solutions. Finalement, je pense qu'il y a aussi peut-être un côté un peu humoristique quand il dit « Mais pourquoi les hommes politiques n'en tiennent pas compte ? Pourquoi est-ce que la littérature est tellement mise de côté ?» Et c'est vrai, on peut se poser la question aussi. Pourquoi est-ce que les romanciers, finalement, ne sont pas écoutés ?
Ouais. Mais ce serait l'horreur, parce qu'alors après, on tenterait de ne... Ouais. Ouais. D'éviter des choses inévitables, où on ferait du plagiat par mais anticipation, c'est quand même, voilà. Ce serait une catastrophe.
C'est quand même une des grandes fonctions de la littérature. Hein. Bah, voilà, il y a un poème très connu de Victor Hugo.
Victor Hugo, voilà, qui dit, se phare dans la nuit.
Et voilà, que il voit c'est exactement voilà, quand les peuples végètent, il a le regard ailleurs, les pieds ici. Et voilà, ouais,
c'est tout à fait ça. Et en effet, on peut se poser la question, je trouve.
Mais est-ce que nos politiques lisent
la littérature importante.
Oui, est-ce que nos politiques lisent, je ne saurais dire.
Je ne sais pas, mais même quand ils lisaient comme Pompidou, je ne crois pas que parce qu'il il a beaucoup lu Pompidou.
C'est vrai,
hein,
c'est vrai.
Et je ne crois pas qu'il ait pris en effet conscience de ce que pouvait apporter la littérature à la gestion politique d'un pays. Pourquoi
en tout cas, c'est très intéressant.
On va l'écouter avec plaisir. Surtout ouais, qu'il sera accompagné d'Yves Ravet.
Oui,
oh, la chance.
Nous aurons ces deux auteurs des éditions de Minuit. Nous aurons beaucoup de la chance de les recevoir. Et on va recevoir aussi Pierre-Antoine Marty, qui est un jeune chercheur ajaccien qui travaille à l'École des hautes études à Paris et qui travaille aussi sur l'apport de la lecture dans l'histoire et dans l'anticipation.
Lisez, s'il vous plaît, Yves Ravet, c'est merveilleux. Ah, oui. Quand je pense que, franchement, ça fait un moment qu'on n'a pas lu et que j'avais conseillé avec ardeur.
Non, mais je crois qu'il n'a pas écrit de nouveau
et
depuis...
passion. Et que ça n'a pas plu à tous les gens à qui j'ai conseillé.
Ah, alors
que
comment j'ai tellement... est-ce possible ?
Non, mais c'est pour ça, c'est toute difficile. L'histoire de la littérature.
Les conseils de littérature,
c'est
terrible.
Et la subjectivité.
Bien sûr.
Donc, allez-y quand même, quand on vous dit qu'on n'est pas tout à fait d'accord ou quand on adore. Voilà, faites-vous votre propre.
Mais cela dit, un essai sur la littérature, c'est toujours intéressant pour les gens qui s'intéressent à la littérature.
Les dates.
Les dates, 17, 18, 19 mai. Alors, 17, on sera à la médiathèque de Castanitch à Folil. Et puis, c'est bien le vendredi, 17.
Oui,
et puis, le samedi, nous prenons le train et on s'arrêtera à Venaco, samedi midi. Et nos auteurs seront aussi à Venaco sur la place de l'église.
D'accord.
Et puis ensuite, nous irons jusqu'à Ajaccio avec une petite veillée le soir à Porticcio.
Bon, et rien à Bastia.
Mais si, bien sûr, il y aura les auteurs jeunesse associés à ce voyage aussi, parce qu'il y aura des auteurs jeunesse invités pour parler de science-fiction, d'anticipation, Maxi Fontaine.
Ça se passe où, à la médiathèque de Bastia, alors, du coup ?
Voilà. Et une semaine avant, vous aurez l'hybride du Roi du Noir.
Mais sur un seul jour.
Sur un seul jour, avec quatre auteurs.
Pour cette quatrième édition, ouais. Ce sera le 11 mai.
Donc le 11 mai, voilà, avec quatre auteurs. Jean-Christophe Tixier, Colin Niel, Jackie Schwartzmann et Alan Parks. Donc à la Villa Saint-Jacques.
Belle affiche
à Lourdes,
aussi.
Voilà, à partir de 14h30.
On n'a pas de quoi s'ennuyer des week-ends.
L'hybride Roi du Noir, donc c'est une des rencontres autour du polar.
Ouais.
On y passe toute la journée. Évidemment, on peut se restaurer, on peut boire un verre, on se gare facilement.
Oui.
On rencontre les auteurs, vous les interrogez. Si on désire acheter les livres avant, parce que je sais que certains aiment bien avoir lu les bouquins avant, rien de plus simple. Vous allez, si vous n'avez pas retenu les noms que vous a donné Bénédicte, vous allez sur les réseaux sociaux de Librimonde et vous trouvez tout. Pareil pour Histoire en mai.
Tout à fait.
Avez envie de lire les livres avant, voilà, n'hésitez pas à aller sur...
Il y aura donc des auteurs de jeunesse, Karina Rosenfeld, Maxime Fontaine, Anouk Langanet, qui ont tous les trois beaucoup pratiqué la science-fiction et l'anticipation.
Mesdames, je vous remercie pour vos choix littéraires. On se dit à très vite. Vous pouvez nous réécouter, comme je vous le disais, quand vous le désirez, que ce soit donc en podcast ou pas. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ou le lundi soir aussi.
Oui.
Nous sommes diffusés. Bonjour à celles et ceux qui sont là le lundi soir.
À 19h.
Ouais. Et puis, évidemment, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci à Tony qui a réalisé cette émission. Au revoir, mesdames.
Au revoir.
Sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradée. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques, pas assez de richesse.
richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Passe 100 à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien, serré dans les tentes sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, si tu veux. C'est la nuit, qualité de sommeil dégradé. Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer, pour de bon lance-flammes. Moi, moi. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour.